D'autres questions? Oui.
En lisant d'autres éditions,
Oui.
il est écrit, il cache le proverbe. Proverbe caché, le anagramme, la bilingue de Moreau,
Oui.
derrière le nom de bateau,
la ville de Montereau.
C'est
ah, vous avez dit, attends.
Proverbe caché, intangible.
Quoi, la vie?
La bilingue de Moreau.
Lente.
La bilingue de
Et donc
la ville
de Montereau. Oui.
Je ne sais pas.
Oui,
par
oui.
Hasard.
On s'amuse beaucoup, hein, donc comme monsieur disait, anagramme. Voilà, alors, tant qu'il n'y a pas de notes de Flaubert lui-même, hein, disant qu'il l'a fait exprès, on n'est pas certain qu'il le fasse exprès. Alors personnellement, je ne connaissais pas cette possibilité d'anagramme, et elle n'a pas non plus un sens extrêmement révélateur ou important. Et puis l'adjectif « lente » est un petit peu faible aussi, par rapport à d'autres choses qu'il dit sur la vie de Moreau. Mais bon, c'est un jeu comme un autre. Il y avait quelqu'un a trouvé cet anagramme, non?
Cette édition ne dit pas.
D'accord, on ne dit pas qui.
Oui, on ne dit pas qui.
Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dès le premier chapitre, on pouvait noter Moreau, Montereau, bon, ça se ressemble un peu. D'autres choses? Alors, on va passer au chapitre 2, qui commence à la fin du chapitre 1, par, à la page 30, donc, l'arrivée d'un billet. Alors, vous vous souvenez de ce que nous avons vu la semaine dernière. Après ces 15 heures de voyage, Frédéric est arrivé chez sa mère et il est reçu par un groupe de personnes qui l'attendaient et puis on lui sert à dîner. Donc il est déjà assez tard, hein, certainement, lorsque, après le grand paragraphe de la page 30, on dit que donc la cuisinière annonça que le potage, etc. Et puis, quelques lignes avant la fin, ils montaient dans leur chambre quand un garçon du signe de la croix apporta un billet. Qu'est-ce donc? C'est Deslauriers qui a besoin de moi. Donc on ouvre le billet et il y a un message du type « Je suis à tel endroit, rejoins-moi », etc. C'est la relation entre les chapitres 1 et 2. Mais tout de suite, il y a un commentaire de Madame Moreau, donc la maman, qui dit, ou plutôt qui montre un ricanement de mépris, et qui dit « L'heure est bien choisie, vraiment ». Alors ce « L'heure est bien choisie, vraiment » est dit sur un ton de reproche, on ne peut pas le penser autrement que reproche, parce qu'il est tard, c'est possible, mais il y a quand même un ricanement de mépris. Et il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication maintenant. Tout à l'heure, nous allons nous déplacer un petit peu dans la suite du texte, et puis après, au dernier chapitre du texte, et nous trouverons cette explication. Donc je vous laisse un petit peu le suspense jusqu'à tout à l'heure. Et cela me permet d'indiquer que, de la part de Flaubert, il y a une volonté de, en quelque sorte, cacher et de déployer un suspense sur la relation entre Frédéric et Charles. Ce suspense, lorsqu'on le connaît, lorsqu'il est révélé, ne semble pas très important. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de secret fantastique derrière cela. Et cependant, ça semble être un procédé organisé d'une façon très précise par Flaubert. Donc, si la révélation pour un lecteur n'est pas très importante, mais que Flaubert a consacré du temps et de l'énergie pour le mettre en place, cela veut dire certainement qu'il y a quand même quelque chose d'important pour Flaubert, même si ça ne l'est pas pour nous. Alors nous essaierons de répondre aussi à cette question en même temps qu'à celle du suspense. Mais venons-en quand même au chapitre 2. Le chapitre commence par, disons, la présentation du père de Charles, et nous retrouvons, comme l'autre jour à la présentation du père de Frédéric, une personne qui est en quelque sorte d'un autre temps, c'est-à-dire du temps napoléonien, du temps impérial. Ce père-là, le père de Charles, il est bien vivant, il n'a pas été tué d'un coup d'épée, mais il vient d'une autre époque. Et les éléments de description du père, donc ancien capitaine de ligne, démissionnaire en 1818, c'est-à-dire qui a quitté volontairement l'armée à cause de son changement, je dirais après un peu plus. Ensuite, il a acheté une charge d'huissier avec la dot de sa femme. Donc la femme apporte au mariage une certaine somme d'argent et le mari l'utilise de la façon qui lui convient ou qui convient à la famille. Et il achète donc une charge d'huissier. Un huissier, c'est un huissier de justice qui doit être l'agent d'exécution et de communication du tribunal de justice. Donc des décisions sont rendues dans des affaires par des juges et les huissiers doivent signifier, on dit, donc transmettre ces informations de jugement aux personnes qui sont concernées. Et l'huissier doit également vérifier que les décisions sont effectivement exécutées. Donc transmettre et exécuter. Cette charge d'huissier s'appelle charge parce qu'il faut l'acheter de façon à avoir bien sûr une autorisation, être contrôlé par le gouvernement. Et aujourd'hui encore, les charges d'huissier s'achètent. Et en plus, elles sont l'objet d'une vérification très précise de la qualité, de la capacité des huissiers, bien sûr. On dit également qu'il était aigri par de longues injustices. On peut imaginer la situation faite aux militaires de l'Empire après la Restauration, la diminution des salaires, le mépris, la carrière qui ne progresse plus. Donc, il était par exemple capitaine de ligne, et bien il n'a jamais pu devenir d'un grade supérieur, bon, pas dans ce genre. Et toujours regrettant l'empereur. Donc il s'agit d'une attitude également morale. Cette attitude du père de Charles nous fait souvenir à tous, et sans doute à Flaubert aussi, d'un certain colonel Chabert de Balzac, qui est exactement du même genre, c'est-à-dire sorti de l'époque napoléonienne et incapable de s'adapter dans la nouvelle époque, dans la Restauration. On en avait déjà parlé à propos du colonel Chabert, bien sûr. On pourrait le voir d'ailleurs à propos du film « Ne touchez pas la hache », qui est une adaptation de « La Duchesse de Langeais », où on voit là aussi un jeune homme déjà, disons, qui a dépassé la trentaine et qui a beaucoup de mal à s'adapter à la Restauration, au monde frivole de la Restauration, venant d'une période plus tragique. Donc Flaubert connaît très bien ces sortes de codes et il sait qu'il vient après Balzac, et d'ailleurs il le citera dans ce chapitre justement comme une possibilité d'avenir pour un éventuel écrivain. Quant à la mère de Charles Deslauriers, eh bien, c'est un peu le contraire de celle de Frédéric. Elle est tout à fait absente. Elle n'est pas considérée. Et lorsqu'on parle d'elle, c'est pour dire que quand elle tâchait de s'interposer, elle était rudoyée comme lui. Donc elle était maltraitée, sans doute battue, etc. Enfin, le capitaine place son fils dans son étude et il lui fait faire des écritures, disons, sans compter ses heures. Et donc le garçon, le jeune Charles, aura l'épaule droite visiblement plus forte que l'autre. Une espèce de déformation à cause du travail infligé à un enfant. Enfin, en 1833, d'après l'invitation de Monsieur le Président, qui doit être donc le président de la Cour ou du tribunal de justice, et qui invite l'huissier à vendre sa charge, ce qui veut dire que peut-être on n'est pas tout à fait satisfait du travail de cet huissier, et on lui dit, écoutez, ça serait mieux de vendre, et puis vous seriez tranquille, etc. Donc, ce n'est pas une personne très appréciée, peut-être. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète l'invitation de Monsieur le Président. Il vend son étude, sa femme meurt d'un cancer, donc là aussi très rapide, hein, une phrase de 6 mots, comme ça, pour se débarrasser d'un personnage. Ça n'est pas très gentil, mais c'est comme ça. Enfin, il s'installe à Dijon, et puis il repart encore à Troyes, où il s'établit marchand d'hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, marchand d'hommes ? Est-ce qu'il s'agit d'un esclavagiste qui vend des esclaves ? Non, pas tout à fait. Et nous devons donc revenir à 1818, la date qui est donnée en haut, parce que cette année 1818 est assez importante dans l'histoire des institutions françaises. Il y a eu au moins donc deux choses différentes, qui viennent toutes les deux de la réforme des armées. Alors après Napoléon, donc 1814 ou 1815, il y a une certaine désorganisation des grandes institutions et on demande à des cadres militaires de réformer, de modifier le système de l'armée. Et c'est en 1818 que sera promulguée et appliquée une nouvelle loi qui s'intitulera la loi Gouvion-Saint-Cyr. Gouvion, c'est le nom du militaire qui l'a proposé, et Saint-Cyr, comme l'époque, comme l'école, pardon, comme l'époque. Voilà, Gouvion-Saint-Cyr, qui est donc un militaire, lui aussi, de l'époque napoléonienne, mais qui a su s'adapter au changement de temps, et qui propose une réforme de l'armée qui sera appliquée. Cette réforme peut-être permet justement au père de Charles Deslauriers de partir de l'armée en se dégageant, disons, de ses obligations. On peut imaginer qu'on a considéré comme une mesure positive de se débarrasser d'un certain nombre de gens qui étaient nostalgiques de l'empereur. Et en même temps, installer une mesure très importante qui s'appelle la conscription. Alors la conscription a existé dans l'armée depuis la Révolution. L'an 2 de la Révolution propose la conscription, c'est-à-dire la participation de tous les jeunes hommes d'un certain âge au travail de défense de la nation par un certain temps passé dans les armées françaises. Cette conscription a duré jusqu'en 2001, je crois, où elle a été supprimée par le président Jacques Chirac. Et entre-temps, elle a eu plusieurs périodes différentes. Elle a été supprimée à la Restauration et réinstaurée, donc reproposée, en 1818. Et il s'agissait d'une période de 7 ans, 5 ans ou 7 ans, passée dans l'armée au service de la nation. Cette conscription avait un fonctionnement très bizarre, parce qu'on ne pouvait pas prendre tous les jeunes hommes, donc on allait tirer au sort, comme exactement tirer un numéro dans une boîte, et si vous avez un bon numéro, vous n'êtes pas conscrit, et si vous avez un mauvais numéro, enfin, voilà, vous y allez. Tout dépend de ce qu'on en pense, hein, bon ou mauvais. Alors bien sûr, beaucoup de jeunes hommes riches souhaitaient se dégager de la conscription, c'est-à-dire d'avoir tiré un mauvais numéro, et ils voulaient trouver quelqu'un qu'on pouvait payer, et qui irait au service militaire, éventuellement à la guerre, à leur place. Et précisément, ce marchand d'hommes, c'est une personne, une sorte d'agent, qui reçoit des demandes de jeunes gens de familles riches qui ont tiré un mauvais numéro, et qui va chercher des jeunes gens plutôt pauvres qui auraient tiré un bon numéro et qui voudraient bien l'échanger ou vendre leur temps de vie hein, pour libérer une personne plus riche. Voilà donc cette conscription. Il en est question dans beaucoup de romans du 19e siècle et vous en avez sans doute déjà entendu parler chez Balzac ou ailleurs. Donc marchand d'hommes à Troyes. Alors bon, ça lui donne une sorte de situation comme ça, hein, et on voit bien que la carrière hein, de ce monsieur est assez variable. Hein. Il change de statut plusieurs fois, militaire, etc., etc. Ce parcours un peu en dents de scie, comme on dit, hein, va se continuer d'ailleurs, puisque au moment où Charles et Frédéric se rejoignent, ce soir, en 1840, le père de Charles est maintenant gérant d'un billard. Alors un billard, c'est une salle de billard où on joue au billard, où on fume, où on boit, principalement destiné aux hommes. Et c'est évidemment très différent d'une charge d'huissier ou même d'un statut de marchand d'hommes. Donc c'est une sorte de d'échéance dans un certain sens. Voilà pour cette situation du père des missionnaires et de la relation avec 1818, hein, qu'il était nécessaire de préciser. Passons maintenant au fils. Quelle est la situation du fils ? Eh bien, après avoir travaillé pour son père dans l'étude et avoir eu l'épaule déformée, il a été placé au collège de Sens, avec une demi-bourse. Alors une demi-bourse, ça veut dire que le gouvernement prend en charge une partie des études de l'enfant après une demande de la famille, peut-être parce que sa mère est morte, peut-être parce que son père ne gagne pas beaucoup d'argent, l'État va récompenser un garçon qui a eu de bons résultats à l'école. S'il avait de mauvais résultats, on lui donnerait rien. Et on peut avoir donc une bourse entière, c'est-à-dire une certaine somme d'argent pour l'année, ou bien une demi-bourse, une sorte de degré dans les bourses. Aujourd'hui encore, les systèmes de bourses existent partout, et vous savez qu'elles sont données soit au mérite, selon les capacités, les résultats de l'élève, soit selon la situation sociale de la famille. Et le plus souvent d'ailleurs un mélange des deux. À ce collège de Sens, les deux garçons se sont rencontrés. L'un était un peu plus âgé que l'autre, c'est Frédéric, qui avait 3 ans de plus, 15 ans. Ce chapitre est donc construit en partie sur les différences entre les deux garçons. Ces différences sont affirmées dès le début. D'abord, le lecteur en prend bien conscience, puisque du côté de Frédéric, c'est une éducation avec la mère, Et du côté de Charles, c'est une éducation avec le père. Du côté de Frédéric, on semble être assez à l'aise, même si c'est, bon, comme on disait la semaine dernière, un peu juste. Mais du côté de Charles, ça a l'air quand même un petit peu plus difficile. Et donc, il a une demi-bourse. Les contrastes vont se multiplier à partir de maintenant dans le texte, puisqu'on vient de dire 1000 différences de caractère et d'origine les séparaient. Ce 1000 est peut-être un peu exagéré. C'est une façon pour Flaubert d'insister sur cette différence, sur ces contrastes. Donc il en a en quelque sorte parlé en présentant le père, mais sans le dire, et puis d'un seul coup, il insiste, et le lecteur devient donc sensible à ces contrastes, et le texte lui-même va être marqué par une sorte d'aller-retour entre le côté de Frédéric, le côté de Charles. Alors, Frédéric possédait dans sa commode toutes sortes de provisions, des choses recherchées, un nécessaire de toilette, bon, un côté, disons, un peu délicat, comme on pourrait dire, un peu féminin peut-être, qui vient aussi de la mère, tout en étant un jeune homme tout à fait normal. De l'autre côté, le paragraphe suivant va opposer « Elle semblait bonne au fils de l'huissier » à la partie de phrase qui terminait le chapitre, le paragraphe précédent, pardon, Frédéric, il trouvait rude la vie de collège. Et juste après, elle semblait bonne au fils de l'huissier. Donc, opposition entre rude et bonne, vous l'avez sans doute remarqué. Il travaillait si bien qu'au bout de la seconde année, il passa dans la classe de troisième. Donc, on voit bien l'élève brillant qui, grâce à ses résultats, saute une classe. Cependant, à cause de sa pauvreté, donc on la rappelle évidemment, et puis l'épisode qui va permettre la rencontre, c'est un épisode justement focalisé sur ce problème de situation sociale. Un domestique, une fois, l'ayant appelé enfant de gueux, gueux c'est un misérable, un pauvre, un mendiant même, en pleine cour des moyens, la cour où les enfants s'amusent pendant la récréation, il lui sauta à la gorge et l'aurait tué sans trois maîtres d'études qui intervinrent. Frédéric, emporté d'admiration, le serra dans ses bras. À partir de ce jour, l'intimité fut complète. L'affection d'un grand, sans doute, flatta, etc. Donc on voit cet épisode qui leur permet de se rencontrer, basé sur l'impression, en quelque sorte l'émotion, que la situation sociale d'un jeune garçon suscite chez Frédéric. Et là aussi, c'est un trait du caractère de Frédéric, de sa personnalité, c'est l'émotion qui domine chez lui, et c'est l'émotion qui domine son choix des personnes qui l'accompagnent dans sa vie. Nous verrons d'autres personnalités, hein, de jeunes gens du même âge, mais Frédéric n'arrivera pas à se lier vraiment avec eux. Martinon, par exemple, semble un garçon très prometteur, il aura d'ailleurs assez bonne réussite, mais il n'y a pas cette impulsion sentimentale qui va l'attacher, qui l'attacherait à Martinon, comme c'est le cas pour Charles. Ensuite, nous avons un développement sur leurs études et le choix, disons, qui est fait par l'un ou l'autre de telles ou telles influences, avec là aussi des différences. Par exemple, Charles va s'attacher à la philosophie et en particulier, Flaubert nous cite alors un certain nombre de gens que vous avez peut-être eu le courage de rechercher dans des dictionnaires ou des encyclopédies, Platon, Jouffroy, Cousin, La Romiguière, Malebranche, les Écossais. Alors, il s'agit bien sûr de tous de gens qui existent et qui sont pour la plupart des contemporains, en particulier Jouffroy, Cousin et La Romiguière, peut-être un peu vieux déjà. Bien sûr, Malebranche est plus ancien. Et les Écossais aussi sont plus anciens. Alors, je ne voudrais pas trop entrer dans le détail des philosophes, parce que sinon, nous allons y passer une heure. Pour Platon, je pense que tout le monde a une petite idée. Hein, donc, Platon, Jouffroy, il s'agit de Théodore Simon Jouffroy, qui est un philosophe qui meurt en 1842, donc il est encore là actuellement en 40 à l'Académie des sciences morales, un personnage connu, et qui est lui-même un élève de Victor Cousin. Donc il s'agit des philosophes, disons, en place, connus à l'époque où on parle de ces jeunes hommes. Victor Cousin est peut-être le plus connu de cette époque, parmi ceux qui sont cités ici. Et alors Victor Cousin lui-même était élève de Laromiguière, qui est cité après. Donc en fait, en mettant Jouffroy, Cousin, Laromiguière, on a déjà une sorte de filiation. Victor Cousin a d'ailleurs lui-même traduit Platon. Je ne sais pas si Platon était traduit ou connu avant. Donc il fallait parler les langues anciennes. Alors, si ce n'était pas le cas, on avait besoin d'un traducteur. Et Victor Cousin, qui sera également un ami de Guizot, on parlait de Guizot la semaine dernière, va développer une sorte de mouvement philosophique qu'on va appeler éclectisme. Alors, éclectisme, le mouvement de l'éclectisme... On pourrait dire, disons le plus simplement possible, que l'éclectisme s'oppose au dogmatisme, au sens où le dogme est une façon de penser fermée, qui s'explique par elle-même, tandis que l'éclectisme accepte de mélanger, disons, des influences diverses et d'associer ensemble des choses qui venaient de plusieurs mouvements ou philosophies différentes qui se pensaient chacune dogmatiques. Et donc l'éclectisme crée une sorte de synthèse ou d'amalgame, dans le sens un peu négatif, ou encore de syncrétisme, hein, de mélange philosophique. Alors c'est assez important pour le 19e siècle, hein, puisque c'est une époque de grand syncrétisme philosophique et moral. Donc je n'entre pas plus dans le détail de ces philosophes, sauf pour dire que, en effet, c'est dans l'époque, c'est tout à fait présent, comme aujourd'hui un jeune homme qui s'intéresserait aux philosophes dont les livres viennent d'arriver, viennent d'être traduits, etc. Sans pour autant délaisser les anciens, Malebranche ou les Écossais. Alors ces Écossais, il faut quand même dire qu'il y a des noms derrière, il s'agit d'un mouvement de philosophie. Les deux plus connus, au moins à ce moment-là, sont peut-être Dugald Stewart et Thomas Reid. Donc Stewart et Reid. Et là aussi, il faut résumer de façon un peu grossière et méchante, mais disons que leur philosophie va dans le sens de ce qu'on appelle le bon sens. Faire appel au bon sens ou à la psychologie, et donc évidemment en opposition avec des philosophies de type essentialiste ou dogmatique, comme Kant, par exemple. Donc là, je vais vraiment très 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 vite, avec des grosses bottes. Mais si vous voulez détailler, on pourra en reparler. Je crois que Flaubert n'a pas souhaité lui-même développer ses thèmes, ses pensées de philosophe, donc simplement les nommer, comme on dit en anglais aujourd'hui, name-dropping, hein, se faire remarquer en montrant certains noms, en disant certains noms, pour dire, voilà, en gros, pour me situer à peu près. De son côté, Frédéric avait, comme on dit, des distractions moins sérieuses. D'abord, il dessine, il s'intéresse donc aux arts graphiques, à l'esthétique, et il s'intéresse au Moyen-Âge. Et alors, il va commencer la lecture d'auteurs du Moyen-Âge qui sont toujours aujourd'hui considérés d'ailleurs comme de très grands auteurs, Froissart, Comines, Pierre de l'Étoile, Brantôme. Les quatre cités ici sont connus tous les quatre comme des chroniqueurs, c'est-à-dire des gens qui ont raconté l'histoire de leur temps et auxquels on peut faire confiance dans une certaine mesure parce que d'autres personnalités ont dit à leur époque ou juste après que ce qu'ils avaient écrit était assez sérieux, assez, utile et intéressant d'un point de vue historique, en même temps que d'un point de vue littéraire, bien entendu. Alors Froissart, c'est au XIVe siècle, Jean Froissart, il a chroniqué, donc raconté, une bonne partie de la première moitié de la guerre de Cent Ans. Alors la guerre de Cent Ans, c'est celle que vous connaissez bien par la personnalité de Jeanne d'Arc, par exemple, mais qui, comme son nom l'indique, s'étale sur une centaine d'années, de façon assez compliquée, et pas toujours très bien connue. Je dirais même encore plus à l'époque de Flaubert. Qu'est-ce qu'on connaissait véritablement de la guerre de Cent Ans? Donc, Froissart. Philippe de Comines, c'est le siècle suivant, c'est milieu du 15e, fin du 15e siècle. Et il a assez bien rapporté des informations historiques sur les règnes des rois Louis XI et Charles VIII. Philippe de Comines est d'ailleurs quelqu'un qui avait commencé à souhaiter à la fois le libre commerce et une certaine vision de l'Europe. Au sens chrétien, bien entendu, mais on a déjà dans l'histoire de l'Europe ces sortes de visionnaires, dont Philippe de Comines. Pierre de l'Étoile, c'est le XVIe siècle, il a été secrétaire du roi et il a écrit aussi des chroniques qui s'appellent registres journaux. Registres, donc comme un document, et journaux comme des journaux. Registres journaux. Et lui, il parle des règnes de Henri III et Henri IV. Enfin, Brantôme, qui est peut-être avec Froissart le plus connu. Brantôme est aujourd'hui assez connu pour des chroniques, disons, un peu érotiques de personnalités historiques. Mais il a écrit des vies tout à fait sérieuses également de personnages. Et il a écrit, semble-t-il, plus que les autres. Alors, 1540-1614, hein, donc vous voyez, au XVIe siècle. Voilà donc ces deux personnalités de Frédéric et de Charles, avec derrière eux, comme ça, une sorte de petit bagage contenant des noms très différents. Nous arrivons maintenant à la scène d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce septembre 1840, tard le soir, après le dîner. Charles, lui aussi, a dîné au restaurant à côté, ou à l'hôtel où il est, et à la fin du chapitre, il demandera quelques sous à Frédéric pour pouvoir payer l'hôtelier, hein, son dîner à l'hôtelier. Donc, ce qui permettra de voir qu'il est toujours dans une situation un peu délicate du point de vue financier. Mais les voilà maintenant, en bas de la page 32, 33 aussi, ils causaient, ils chuchotaient, en haut de la page 33, ils en rêvaient, et deux lignes après, ils parlaient interminablement, et puis le paragraphe suivant qui commence par « ils parlaient ». Donc on a tout ce thème de la conversation entre les deux amis. Ils vont bien sûr mélanger le passé avec le présent en se racontant leur histoire, faire le point, parler d'aujourd'hui et bien sûr imaginer l'avenir. C'est ce paragraphe en haut de la page 33 qui est donc constitué principalement de verbes au conditionnel. Il parlait de ce qu'il ferait plus tard. Et bon, bah, vous pouvez faire la liste. D'abord, ils entreprendraient un grand voyage, l'argent que Frédéric prélèverait. Bon. Ils reviendraient à Paris, ils travailleraient ensemble, ne se quitteraient pas. Ils auraient des amours de princesse ou de fulgurantes orgies avec des courtisanes illustres. Voilà donc une sorte d'imagination de la vie par deux jeunes hommes qui ne savent pas, bien sûr, de quoi leur vie sera faite. Mais en même temps, nous ne pouvons pas éviter de nous mettre un peu à la place de Flaubert, qui est en train d'écrire ceci en sachant déjà à peu près la vie qu'il va leur donner. Donc Flaubert écrit quelque chose dont il sait que ça ne va pas se réaliser dans la suite du livre. Et il est important pour nous de prendre cette distance et d'accompagner un peu l'écrivain dans sa stratégie d'écriture pour l'ensemble du livre. Alors je vous propose de regarder tout de suite à la page 517, c'est-à-dire le milieu à peu près de ce dernier chapitre du roman, tout petit chapitre, page 517 donc, vers le milieu de la page, les deux amis, donc bien plus tard, en 1867, c'est-à-dire exactement 27 ans plus tard, ils sont en 1867, ils se retrouvent, après des tas d'aventures, entre guillemets, et ils ne se quittent plus, selon le programme tout de même prévu. Alors, que s'est-il passé dans leur vie? Après le premier paragraphe en haut de la page 517, et ils résumèrent leur vie. Alors, on a donc un effet d'écho assez ironique de la part de Flaubert entre cette projection de l'avenir à la page 33 et ce « ils résumèrent leur vie » à la page 517. Je continue, page 517. Ils l'avaient manqué tous les deux. Celui qui avait rêvé d'amour, l'amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en était la raison? C'est peut-être le défaut de la ligne droite, dit Frédéric. Pour toi, cela se peut. Moi, au contraire, j'ai péché par excès de rectitude, sans tenir compte de mille choses secondaires plus fortes que tout. J'avais trop de logique, et toi, de sentiment. Puis ils accusèrent le hasard, les circonstances, l'époque où ils étaient nés. Frédéric reprit. Ce n'est pas là ce que nous croyions devenir autrefois à Sens, quand tu voulais faire une histoire critique de la philosophie, et moi, un grand roman Moyen-Âge sur Nogent, dont j'avais trouvé le sujet dans Froissart, comment messire Brocars de Fénestrange et l'évêque de Troyes assaillirent messire Eustache d'Abrosicourt. Te rappelles-tu ? Et exhumant leur jeunesse, à chaque phrase, il se disait « Te rappelles-tu ? » Il revoyait, etc., etc. Je m'arrête là pour l'instant, dans ce petit passage d'un côté à l'autre. Donc, un effet de construction, certainement voulu et surveillé en détail par Flaubert dans les parties finales de sa rédaction. Je reviens à la page 33 pour l'instant. Alors, dans cette projection de l'avenir au conditionnel, il y a d'abord des voyages, un grand voyage. On peut penser bien sûr à Flaubert avec son ami Maxime Ducamp qui font en effet ce grand voyage. Puis ils reviendraient à Paris, ils travailleraient ensemble. Alors, ce thème de travailler ensemble, Flaubert l'a fait en partie, et on le retrouvera bien entendu dans Bouvard et Pécuchet. Et Charles et Frédéric sont ici, en quelque sorte en miniature, hein, une sorte de première ébauche, de premier essai de Bouvard et Pécuchet. Bien sûr, Flaubert ne le sait peut-être pas à ce moment-là. Nous pouvons le voir parce que nous avons une autre position historique, bien sûr. Alors voilà pour le travail. Ils travailleraient ensemble. On ne dit pas à quoi. Ils travailleraient ensemble. Vous voyez, le verbe est sans complément. Ça, c'est tout à fait étonnant. Peu importe. C'est ça que veut dire Flaubert, finalement. Peu importe à quoi, ils travailleraient ensemble. Être ensemble est beaucoup plus important que le sujet lui-même du travail. Et là aussi, du côté de Bouvard et Pécuchet, ça veut dire que tous les sujets se valent. Il n'y a pas d'importance supérieure de tel ou tel sujet. L'important étant d'être ensemble. Ou plutôt, si on est ensemble et qu'on a donc cette amitié, c'est le thème de l'amitié bien sûr, n'importe quel sujet pourra convenir, peut-être. Et comme délassement à leurs travaux, ils auraient, alors il y a deux possibilités, l'un ou l'autre, ou les deux, des amours de princesses dans des boudoirs de satin, ou de fulgurantes orgies avec des courtisanes illustres. C'est un peu comme un menu de restaurant, hein, vous pouvez choisir la chambre rose ou la chambre noire, et vous avez des services différents qui vous sont offerts. Bon, c'est aussi l'imaginaire des jeunes gens. Les jeunes gens de 17-18 ans, ils imaginent à la fois l'amour sous ses deux sens, en quelque sorte, hein, l'amour platonique avec le côté princesse, et puis l'amour physique avec le côté courtisane. En fait, on illustre là les deux grandes directions du mot « amour » en français, ce qui n'est pas le cas dans toutes les langues, hein, puisque on n'a pas toujours cette possibilité sémantique. Bon, voilà cette imagination, et puis des doutes succédaient à leurs emportements d'espoir. Après des crises de gaieté verbeuse, ils tombaient dans des silences profonds. Bon, c'est l'imaginaire des jeunes gens qui craint en même temps de rencontrer tellement d'obstacles que rien ne se réalisera, c'est tout à fait normal. Ensuite, un paragraphe sur, disons, le développement de leur intimité, comment leur intimité se vit, existe, dans cette situation de lycée à la campagne, où ils sont internes, c'est-à-dire où ils vivent complètement. Il faut penser au lycée, à l'internat de lycée, comme quelque chose de très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui avec des enfants qui rentrent chez eux tous les jours, hein, bien sûr. Cette amitié, vous l'avez sans doute remarqué en lisant le livre, n'est absolument jamais teintée ni même d'allusion homosexuelle. C'est-à-dire que le thème de l'homosexualité n'apparaît absolument pas dans l'écriture de Flaubert. Sauf, je ne sais pas, études psychanalytiques qui iraient chercher derrière, etc. Mais bon, d'un point de vue, disons, explicite, hein, de ce qui est clairement dit par l'écriture, il n'y a pas d'allusion. Je crois que c'est chez Flaubert un trait permanent de l'amitié, qu'elle n'est pas sexuelle. En même temps, c'est une intimité très proche. Ils se tiennent, ils partagent le même manteau, comme aujourd'hui encore, ils se tiennent par la taille. Aujourd'hui, ça ne serait plus tout à fait accepté, comme ça, hein, entre deux garçons. Cette amitié est d'ailleurs un peu considérée comme dangereuse, pas du point de vue donc moral ou sexuel, mais du point de vue des résultats scolaires. On dit, après ces promenades, ils étaient tristes comme après de grandes débauches. Et M. le censeur prétendait qu'ils s'exaltaient mutuellement. Alors, s'exalter mutuellement, ça a ici un sens négatif, ça veut dire s'exciter au sens moral, se donner des grandes idées, se pousser l'un l'autre à des développements sentimentaux qui seraient donc mauvais pour les résultats scolaires. Cependant, si Frédéric travaillait dans les hautes classes, ce fut par les exhortations de son ami. Donc, il a tout de même de bons résultats. Et aux vacances de 1837, il l'emmena chez sa mère. Alors ici, on passe donc à une autre partie, ou à une autre époque, en quelque sorte, parce que les vacances chez Madame Moreau, contrairement à l'attente ou à l'espoir de Frédéric, ça ne se passe pas très bien, et c'est ici que nous allons essayer de comprendre pourquoi Madame Moreau a eu un ricanement de mépris lorsqu'est arrivé le petit billet invitant Frédéric à le rejoindre. Le jeune homme, donc je l'ai en bas de la page 33, hein, le jeune homme déplut à Madame Moreau. Il mangea extraordinairement, il refusa d'assister le dimanche aux offices, il tenait des discours républicains. Enfin, elle crut savoir qu'il avait conduit son fils dans des lieux déshonnêtes. On surveilla leur relation, ils ne s'en aimèrent que davantage, et les adieux furent pénibles quand Delaurier, l'année suivante, partit au collège pour étudier le droit à Paris. Frédéric comptait bien l'y rejoindre. Ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans, et leurs embrassades étant finies, ils allèrent sur les ponts afin de causer plus à l'aise. Dans ce petit paragraphe, nous avons donc plusieurs raisons pour lesquelles Madame Moreau n'a pas apprécié Charles. D'abord, il mange beaucoup. Bon, il n'a peut-être pas dit qu'il ne mangeait pas bien au lycée ou qu'il était un peu pauvre, donc le voilà qui mange beaucoup. Et c'est très bien d'ailleurs cette phrase, hein, il mangea extraordinairement. Là aussi, il n'y a pas de complément d'objet direct, mais l'adverbe, le long adverbe, nous fait tout un menu en quelque sorte. Alors, il refuse d'assister aux offices, c'est-à-dire il est anticlérical, alors que Madame Moreau est, disons, normalement ou classiquement chrétienne catholique. Il tenait des discours républicains, et ça sera donc le sujet de l'aventure du mot aujourd'hui. Enfin, elle crut savoir qu'il avait conduit son fils dans des lieux déshonnêtes. Tiens, de quoi s'agit-il ? Alors, des lieux déshonnêtes, eh bien, on va se reporter encore une fois pour aujourd'hui au dernier chapitre, c'est-à-dire à la page 517 et 518. Là où je me suis arrêté tout à l'heure, en bas de la page 517, il revoyait la cour du collège, donc c'est le rappel du passé. Souvenir, les deux professeurs de dessin, toujours en dispute, on arrive à la page 518, hein. Le compatriote de Copernic, son système planétaire, etc. Puis un tiret, et après ce tiret, puis une terrible ribote en promenade, leur première pipe fumée, les distributions des prix, la joie des vacances. Alors il s'agit là de choses moins sérieuses, hein, qui leur sont arrivées, et Frédéric et Charles ont vécu donc une chose un peu bizarre, que jusque-là aucun des deux, dont jusque-là aucun des deux n'avait parlé, et dont Flaubert n'avait pas parlé, hein, le narrateur n'en avait pas parlé. Et d'un seul coup, on le raconte, et forme le dernier épisode du roman, d'une façon un peu étrange, tout de même. C'était pendant celle de 1837 qu'ils avaient été chez la Turque. 1837 sont justement les vacances dont on parlait, celles où Charles a déplu tellement à Madame Moreau. Chez la Turque, tiens, on appelait ainsi une femme qui se nommait de son vrai nom Zoraïde Turque et beaucoup, etc., etc. Il s'agit donc, vous l'avez sans doute compris, d'une maison de prostitution. Dans cette maison de prostitution, tenue par une femme qu'on appelle la Turque, et qui garde chez elle un certain nombre de filles et où viennent certains hommes lorsqu'ils souhaitent avoir ce type de relation. Cette maison était située au bord de l'eau, derrière le rempart. Même en plein été, il y avait de l'ombre autour de sa maison, reconnaissable à un bocal de poisson rouge près d'un pot de réséda sur une fenêtre. Des demoiselles en camisole blanche, camisole, avec du fard aux pommettes et de longues boucles d'oreilles, ce qui n'est pas une tenue normale pour une jeune femme, une tenue déjà exagérée, on va dire aguichante, attirante, qui est une tenue de courtisane ou de prostituée, frappait au carreau quand on passait et le soir, sur le pas de la porte, chantonnait doucement d'une voix haute. Ça, c'est la situation de cette maison. Ce lieu de perdition projetait dans tout l'arrondissement un éclat fantastique. Notez bien cet éclat fantastique. D'abord, c'est un éclat de notoriété. C'est notoire, c'est connu, tout le monde le sait. Donc, c'est l'éclat de l'information, si je puis dire. Et d'un autre côté, c'est la lumière. La lumière, parce que dans une petite ville où tout est éteint le soir, et ça c'est donc très différent de nos villes où il y a toujours de l'éclairage maintenant la nuit, mais lorsque tout est éteint le soir, il y a une petite lumière qui reste allumée, c'est cette maison-là, pour que les gens la trouvent, bien évidemment. On le désignait par des périphrases. Bien sûr, on ne peut pas dire directement ce que c'est. L'endroit que vous savez, une certaine rue, au bas des ponts. Ce sont des périphrases. Les fermières des alentours en tremblaient pour leur mari, les bourgeoises le redoutaient pour leur bonne, si leurs bonnes vont travailler là, parce que la cuisinière, etc., etc. Or, un dimanche, voilà donc l'épisode, pendant qu'on était aux vêpres, c'est-à-dire aux prières, tout de même, Frédéric et Deslauriers, s'étant fait préalablement friser, c'est-à-dire coiffer, cueillir des fleurs dans le jardin de Madame Moreau, quand même, quelle bande de malpolis, puis sortir par la porte des champs, la porte de derrière, la porte du jardin, celle par laquelle on ne les voit pas sortir. Et après un grand détour dans les vignes, revinrent par la pêcherie et se glissèrent chez la Turque, c'est-à-dire on ne les voit pas entrer, en tenant toujours leur gros bouquet. Alors, ils sont très timides tous les deux. Frédéric, surtout, est très impressionné, toujours son tempérament, disons, et il va s'enfuir. Comme c'est lui qui a l'argent, l'autre ne peut pas rester, et il s'enfuit aussi. Donc, c'est complètement raté, leur histoire, et ça correspond à ce qu'ils disent, d'ailleurs, qu'ils ont raté tout dans leur vie, même ça, même cette visite à la maison de prostitution. Alors bon, l'émotion de Frédéric, et puis on arrive à la dernière page. Croyant qu'on s'en moquait, il s'enfuit, et comme Frédéric avait l'argent, Deslauriers fut bien obligé de le suivre. On les vit sortir. Cela fit une histoire qui n'était pas oubliée 3 ans après. Donc en 1840, quand Charles revient pour rendre visite à Frédéric, c'est notre épisode d'aujourd'hui, eh bien, Madame Moreau se souvient très bien de cette histoire. On les a vus sortir de la maison de la Turque. Et donc, Madame Moreau est tout à fait fondée, elle a raison de penser que c'est peut-être Charles qui avait emmené son fils dans cet endroit déshonnête. Page 33, l'adjectif déshonnête. Alors, commentaire des deux dernières phrases donc, du roman. Comment se termine le roman? Il se termine sur ce souvenir. Ils se la contèrent prolixement, chacun complétant les souvenirs de l'autre. Et quand ils eurent fini, c'est là ce que nous avons eu de meilleur, dit Frédéric. Oui, peut-être bien, C'est là ce que nous avons eu de meilleur, dit des lauriers. Alors cette répétition de « c'est là ce que nous avons eu de meilleur » a un certain comique, c'est-à-dire ils ne savent pas dire autre chose, et pour nous aujourd'hui du 20e et du 21e siècle, nous pouvons penser aux deux personnages de Tintin qui s'appellent Dupont et Dupont et qui répètent toujours à peu près les mêmes phrases avec un tout petit changement. Il est possible que le monsieur Hergé qui a écrit Tintin se soit souvenu de cette fin du roman de Flaubert avec ce côté un peu ridicule. C'est là ce que nous avons eu de meilleur. Oui, en effet, c'est là ce que nous avons eu de meilleur. Bon, il faut l'imaginer hein, dans une scène théâtrale ou cinématographique. Voilà donc ce qu'ils ont eu de meilleur, tout le reste étant encore plus raté, mais cet épisode chez la Turque étant au moins amusant, drôle et tout à fait ironique de la vie. Voilà. Alors je vous rappelle donc comment commençait ce chapitre 7 à la page 515. Hein, donc c'est le dernier chapitre qui commence par « Vers le commencement de cet hiver », alors il faut voir le chapitre d'avant, mais on le verra plus tard, c'est 1867. Frédéric et Deslauriers causaient au coin du feu, réconciliés encore une fois par la fatalité de leur nature qui les faisait toujours se rejoindre et s'aimer. Bien sûr, ils vont se raconter différents épisodes sur lesquels nous reviendrons plus tard. Mais il était important de montrer cette construction hein, de Flaubert entre le chapitre 2 de la première partie et le chapitre 7 de la troisième. De cette façon d'ailleurs, nous pourrons expliquer la fin du chapitre 2 également. Regardez à la page 37. Comme ça, nous aurons fini avec les petits pièges de Flaubert et on pourra se consacrer au reste du chapitre. En bas de la page 37, donc ils vont se quitter et Frédéric demande 100 sous pour payer son dîner. Frédéric lui donna 10 francs, le reste de la somme prise le matin à Isidore. Cependant, à 20 toises des ponts, alors une toise c'est quelques pieds, donc je sais pas, ça fait 150 mètres, hein, disons. À 20 toises des ponts, sur la rive gauche, une lumière brillait dans la lucarne d'une maison basse. Deslauriers l'aperçut, alors il dit emphatiquement, tout en retirant son chapeau. « Vénus, reine des cieux, serviteur, mais la pénurie est la mère de la sagesse. Nous a-t-on assez calomnié pour ça ? Miséricorde !» Cette allusion à une aventure commune les mit en joie. Ils riaient très haut dans les rues. Puis, ayant soldé sa dépense à l'auberge, Deslauriers reconduisit Frédéric jusqu'au carrefour de l'Hôtel-Dieu et après une longue étreinte, les deux amis se séparèrent. Voilà donc cette allusion à une aventure commune. Vous voyez donc, si vous lisez dans l'ordre le roman, ce que tout le monde fait, hein, bien sûr, vous avez d'abord le ricanement de Madame Moreau, ensuite vous avez cette allusion à une aventure commune. Allusion, comment on peut interpréter cette allusion? On peut deviner un petit peu, tout de même. Vénus, reine des cieux. Bon, c'est une allusion féminine, tout de même. Et la pénurie est mère de la sagesse. Or, de quoi on parle? On parle de donner quelques sous, quelque argent, pour payer le restaurant. Donc le mot pénurie s'applique bien à la pénurie d'argent. Et la pénurie d'argent est donc mère de la sagesse. Ça veut dire que si on n'a pas d'argent à dépenser maintenant, on va être sage. Et pourquoi on dépenserait de l'argent maintenant ? Vénus, reine des cieux. Pour aller vers des plaisirs féminins que l'on payerait. Donc, c'est une allusion que l'on peut interpréter, mais il faut quand même y réfléchir un petit peu. avec le dernier chapitre, c'est tout à fait clair et on comprend tout très précisément. Ici, à la page 38, cette allusion à une aventure commune les mit en joie, ils riaient très haut dans les rues. Les mettre en joie, et tout à fait à la fin, ils s'expriment ensemble et ils sont encore heureux et joyeux. C'est-à-dire que même 25 ans après, cet épisode continue à les amuser et à les rendre joyeux. C'est-à-dire que cet épisode de quelque chose qui n'a pas eu lieu continue à être en quelque sorte un des éléments secrets, moteurs de leur amitié. Et je crois que c'est ça qui est important pour Flaubert, d'avoir construit de cette façon pour montrer que l'amitié repose sur presque rien. La bagarre avec des garçons dans la cour des moyens, et puis un épisode un peu bête d'avoir raté d'être allé au bordel, comme on dit. Alors bon, on sait par le voyage en Orient, hein, on sait que Flaubert et son copain y sont allés beaucoup à ce moment-là et après, mais Flaubert n'en parlait pas spécialement dans ses romans, hein, par exemple. Voilà donc cette allusion importante comme un élément de construction du texte. Et excusez-moi un peu pour l'aspect un peu décousu aussi, hein, que ça donne au cours, mais je crois que c'est bien de passer comme ça par derrière, par la fin, disons. Alors je reviens à mon épisode à la page 34. Maintenant que nous avons éclairci ce point, nous pouvons comprendre d'ailleurs pourquoi Flaubert a placé Charles et Frédéric sur les ponts. C'est en haut de la page 34. Ils s'installent sur les ponts pour discuter. Alors, sur les ponts, et ça sera expliqué à la page 35, un peu avant le milieu de la page, ils continuèrent de se promener d'un bout à l'autre des deux ponts qui s'appuient sur l'île étroite formée par le canal et la rivière. Et puis les deux paragraphes, le paragraphe suivant. Quand ils allaient du côté de Nogent, hein, donc ils marchent d'un côté et puis après ils marchent de l'autre côté sur le pont, quand ils allaient du côté de Nogent, ils avaient en face un pâté de maisons, l'église, les haies d'arbustes le long de la rive, etc. Mais du côté de Paris, la grande route descendait en ligne droite et des prairies se perdaient au loin dans les vapeurs de la nuit. Silencieuse, clarté blanchâtre, odeur de feuillage, chute de la prise d'eau, une petite retenue d'eau certainement du canal, et le commentaire de Deslauriers, ces bonnes gens qui dorment tranquilles, c'est drôle, patience. Un nouveau 89 se prépare. On est là de constitution, de charte, de subtilité, de mensonge. Ah, si j'avais un journal ou une tribune, comme je vous secouerais tout cela. Mais pour entreprendre n'importe quoi, il faut de l'argent. Quelle malédiction que d'être le fils d'un cabaretier et de perdre sa jeunesse à la quête de son pain. Il baissa la tête. Alors je reviens pour essayer de l'interpréter à cette situation d'être sur les ponts. Donc vous imaginez, il y a la rivière et le canal qui se rejoignent un peu plus loin, ou qui sont parallèles momentanément, et il y a des ponts qui passent sur l'un et l'autre. Je ne connais pas la configuration exacte, hein, est-ce qu'ils sont parallèles ou perpendiculaires. En tout cas, il y a des ponts. Être sur des ponts. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue alors un petit peu symbolique? Ça veut dire être au-dessus de l'eau qui passe. Bon, je ne vous apprends pas le poème d'Apollinaire sur le pont Mirabeau coule la Seine et qui montre bien l'équivalence entre l'eau qui passe et le cours de la vie. Et Apollinaire n'était pas le premier, lui qui reprenait des poésies depuis le Moyen-Âge, en quelque sorte. Hein. Donc, être sur un pont, regarder l'eau, c'est se mettre dans une situation, en quelque sorte, symbolique, un peu philosophique, de regarder l'eau qui passe, de regarder le cours de l'eau comme le cours de la vie. Et en même temps, imaginer. Et bien sûr, il y a l'amont, il y a ce qu'il y a avant, d'où vient l'eau, c'est-à-dire le passé, et il y a l'aval, où va l'eau, le futur. Cette situation sur des ponts, c'est donc une sorte de surplomb, être un petit peu en hauteur, au-dessus de l'eau, dans un moment particulier où l'on imagine son futur en regardant son passé, et voilà. En plus, il y a deux ponts, comme il y a deux garçons. Je pourrais même dire qu'il y a deux ponts, Dupont et Dupont, de Hergé, de Tintin. Excusez-moi pour le jeu de mots un peu stupide. Mais bon, pourquoi pas. Je reviens à la page 34, et donc sur les ponts, afin de causer plus à l'aise. Le capitaine, qui tenait maintenant un billard à Villeneuve, s'était fâché rouge. Alors, je ne lis pas intégralement le texte, mais le père de Charles est maintenant fâché avec son fils, parce que le fils lui a demandé de l'argent, et en particulier l'argent de sa mère. Il s'agit de ce qu'on appelle les comptes de tutelle. Le père a la tutelle de son fils jusqu'à sa majorité, et si le fils est un bon fils, obéissant et poli, lorsqu'il arrive à sa majorité, eh bien, il laisse son père lui donner les comptes de tutelle. Si le père est honnête, il le fera. Mais dans le cas qui nous importe ici, le père est un homme assez étrange et certainement il ne souhaitait pas rendre de compte à son fils. C'est donc le fils qui est obligé de les demander à son père, ce qui vexe, choque le père, qui va donc en quelque sorte mépriser son fils, hein, pour lui avoir montré qu'il ne fait pas bien son rôle de père, ou quelque chose comme ça. Donc, il lui a même coupé les vivres. Couper les vivres, expression classique pour le père qui ne donne plus d'argent. Comme il n'a plus d'argent, il est obligé de travailler, et donc il a trouvé une place de maître clerc chez un avoué. Maître clerc, c'est quelqu'un qui copie des documents. Là aussi, Bouvard et Pécuchet sont un petit peu en avance sur l'histoire. Eux aussi, ils étaient copistes. Alors, il arrive, ou il arrivera peut-être à économiser 4000 francs, et s'il arrive à économiser l'argent qui lui vient de sa mère, peut-être il peut étudier pendant 3 ans. Alors, leur vieux projet de vivre ensemble dans la capitale, pour le présent du moins, eh bien, il faut l'abandonner. Frédéric baissa la tête. C'était le premier de ses rêves qui s'écroulait. Là, on ne peut pas ne pas penser à Flaubert. Hein. Pourquoi Flaubert écrit « le premier de ses rêves » Flaubert aurait pu écrire « c'était un rêve qui s'écroulait ». C'était un de ses rêves qui s'écroulait. Mais pourquoi « le premier » Ça veut dire qu'il y en a d'autres, qu'il y en a une liste. Et cette liste, le lecteur ne peut pas penser qu'elle ne va pas venir aussi. Donc c'est une sorte de parodie ou paraphrase des illusions perdues de Balzac, c'est-à-dire l'une après l'autre, peut-être, ces illusions vont être perdues. Premier de ces rêves qui s'écroulaient. Console-toi, dit le fils du capitaine, la vie est longue, nous sommes jeunes, je te rejoindrai, n'y pense plus. Vous voyez, je te rejoindrai, maintenant que vous connaissez le chapitre 7 de la troisième partie, vous savez qu'il a tenu sa promesse. Et c'est donc l'amitié comme seule chose qui survit, qui dépasse hein, ces 25 ans de vie tumultueuse de ces deux garçons. Où j'en suis ici. Voilà, je me suis demandé aussi, un peu dans la continuation de ce que disait monsieur tout à l'heure avec l'anagramme, hein, ils sont tous les deux au collège de Sens. Sens, c'est le nom d'une ville. Mais Flaubert aurait pu en choisir d'autres. Un collège à Montereau, un collège à Troyes ou autre. Il a choisi Sens. Le sens de la vie, le sens de l'eau, de la rivière. Donc la recherche du sens aussi hein, dans la vie. C'est donc Charles qui a commencé à raconter ce qui lui était arrivé depuis 2 ans. Il a parlé de sa situation avec son père, de ses projets, etc. À sa suite, Frédéric devrait normalement raconter ce qu'il a fait lui aussi depuis 2 ans. Et donc, en bas de la page 34, les deux derniers paragraphes qui commencent tous les deux par Frédéric. Frédéric n'eut pas grand-chose à narrer. Mais au souvenir de Madame Arnoux, son chagrin s'évanouit. Il ne parla pas d'elle, retenu par une pudeur. Il s'étendit en revanche sur Arnoux, rapportant ses discours, ses manières, ses relations. Et Deslauriers l'engagea fortement à cultiver cette connaissance. Frédéric, dans ces derniers temps, n'avait rien écrit. Ses opinions littéraires étaient changées. Donc là, on peut penser que Flaubert résume le reste de la conversation dans laquelle Frédéric parle de ses nouveaux goûts littéraires. Tout à l'heure, on a cité des noms d'auteurs. Maintenant, on cite des noms de personnages. Pas tous faciles à identifier d'ailleurs. Je ne suis pas non plus un grand spécialiste du romantisme, mais je sais bien que Werther et René, et Lélia aussi, sont des personnages très connus de romans de l'époque romantique, on va dire. Werther, c'est Goethe, bien sûr, les souffrances du jeune Werther. René, c'est Chateaubriand, là aussi, on ne peut pas l'oublier. Lélia, c'est dans un roman de George Sand. Les deux autres, personnellement, je ne suis pas sûr. Est-ce que quelqu'un connaît Franck et Lara ? Mais il s'agit sans doute de romans bien connus, malheureusement, que j'ai oubliés ou que je n'ai pas lus. Là aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est un effet de succession de noms qui vaut pour une sorte de quantité. Werther, René, Franck, Lara, Lélia et d'autres plus médiocres l'enthousiasmaient presque également. Il s'agit donc d'une passion pour la littérature romantique. Quelquefois, la musique lui semblait seule capable d'exprimer ses troubles intérieurs. Alors, il rêvait des symphonies. Ou bien la surface des choses l'appréhendait et il voulait peindre.
Franck est le personnage de théâtre, de musée.
Oui. Et de quelle pièce? C'est pas marqué. Donc chez Musset, très bien.
Et le poème de Byron.
Byron avec le personnage de Lara. Merci beaucoup. Ça, c'est dans l'édition japonaise. Très bien. Merci au traducteur et à ses notes. Il faut vérifier d'ailleurs dans la Pléiade, parce qu'il n'est pas sûr qu'on mette les notes dans la Pléiade. Alors que pour l'édition en japonais, c'est tout à fait normal et raisonnable. Merci. Donc, en effet, deux auteurs romantiques, eux aussi, Musset et Byron. Alors, quelquefois la musique ou bien la peinture. Alors, on voit comment ça se passe. Hein. C'est toujours de façon sentimentale, excessive et superficielle. Parce que ça ne dure pas et ça ne se transforme pas en réalité. Malheureusement, nous le verrons, Frédéric, c'est celui qui n'arrive à rien. Celui qui n'arrive à rien par manque de constance et d'application, par manque de persévérance. Donc on peut noter ces trois mots, si vous voulez, constance, application, persévérance. Qui sont donc les qualités qui manquent essentiellement à Frédéric pour réussir, parce que si Balzac avait construit ce Frédéric, il lui aurait donné un peu de persévérance, un peu de pugnacité dans les projets, et il l'aurait fait réussir. Donc c'est un personnage de Balzac auquel on a enlevé ces qualités-là. En même temps, c'est une critique d'une génération qu'on peut appeler génération influencée par le romantisme. Non pas la génération des romantiques, qui, eux, peut-être savaient ce qu'ils voulaient, mais la génération de jeunes gens influencés par la littérature romantique dans le mauvais sens, justement dans le sens sentimentaliste du romantisme, en oubliant, disons, la dimension politique du romantisme, qui pouvait être une forme de contestation de l'industrialisme naissant au début du XIXe siècle. Alors, de temps en temps, ils reçoivent la visite du domestique que Madame Moreau envoie pour récupérer Frédéric. Madame Moreau a entendu parler de cette histoire de la visite chez la Turque. Et elle s'inquiète pour son fils, elle craint que ça recommence, donc elle envoie le domestique chercher son fils. Et donc plusieurs fois, le domestique vient et on dit « oui, oui, tout de suite ». Et on peut imaginer que le domestique rentre à la maison en disant « ils sont sur le pont, donc il n'y a rien de grave ». Mais comme l'heure avance, il faut quand même y retourner plusieurs fois. Alors on les a vus sur ces ponts, se raconter ce qui s'est passé depuis 2 ans, aller d'un côté et de l'autre, comme s'ils hésitaient sur le sens de la vie, le côté de la vie, la direction qu'ils pourraient prendre dans leur vie. Et puis, de temps en temps, le domestique passe. Voilà ce qui rythme, disons, le chapitre. À la page 36, il commence à faire un petit peu froid. Et donc, Frédéric lui jeta la moitié de son manteau sur les épaules. Ils s'en enveloppèrent tous deux et, se tenant par la taille, ils marchaient dessous, côte à côte. Donc, cette promiscuité physique également, qui marque bien leur amitié, leur intimité. « Comment veux-tu que je vive là-bas sans toi ?» disait Frédéric. L'amertume de son ami avait ramené sa tristesse. « J'aurais fait quelque chose avec une femme qui m'eût aimé. Pourquoi ris-tu ? L'amour est la pâture et comme l'atmosphère du génie. Les émotions extraordinaires produisent les œuvres sublimes. Quant à chercher celle qu'il me faudrait, j'y renonce. D'ailleurs, si jamais je la trouve, elle me repoussera. Je suis de la race des déshérités et je m'éteindrai avec un trésor qui était de strass ou de diamant. Je n'en sais rien. » Cette façon donc de concevoir le romantisme de la part de Frédéric est justement la plus mauvaise des façons sentimentalistes et déjà en situation d'échec. C'est-à-dire que avant même d'affronter les difficultés de la vie, de se battre contre tel ou tel événement et d'essayer d'obtenir les faveurs, les amours, etc., il est possible d'avance d'y renoncer à l'avance. Par la suite, nous verrons Frédéric essayer essayer différentes choses, comme un brave petit gars qui essaye quand même. Mais on pourra toujours penser qu'à l'intérieur de lui, il y a toujours cette sorte de résignation à l'échec qui provoque chez celui qui essaye précisément l'échec. C'est parce qu'il pense qu'il va rater qu'il rate. Même s'il essaye, hein, il a quand même toujours ce mouvement qui va dans l'autre sens, et donc il ne va pas aussi loin qu'il le devrait dans chaque entreprise, et il s'arrête toujours au milieu. On le verra avec l'amour, on le verra avec les affaires, on le verra avec la politique. Ce sera toujours la même chose, malheureusement. Il faudra ajouter, et j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, une autre dimension importante du roman de Flaubert, c'est le hasard. Le hasard joue un très grand rôle dans ce livre, et alors là, d'une façon totalement contraire à Madame Bovary, qui est un roman en quelque sorte de fatalité. Les personnages sont absolument incapables de se dégager de la fatalité de leur destin. Mais ici, bien sûr, on peut dire aussi qu'il y a des destins, qu'il y a des prédestinations. Cependant, on verra beaucoup d'événements, de choses qui arrivent par hasard, qui sont quand même une façon de balloter les personnages dans le cours de la vie, qui les empêche justement de bien choisir leur destin. Ce que Frédéric appelle, avec une certaine poésie, au dernier chapitre qu'on a vu tout à l'heure, le défaut de ligne droite. Ça manquait de ligne droite dans sa vie, et à cause de cela, il n'a pas bien vu où il fallait aller. Alors que Charles dit le contraire. Lui, il a peut-être trop essayé la ligne droite, mais ça n'a pas marché non plus. Ça a cassé parce qu'il était trop rigide. Ce qui veut dire d'ailleurs que l'un ou l'autre, hein, trop ou pas assez de ligne droite, finalement, ça ne marche pas non plus. Alors qu'est-ce qui marche ? Question. Grande question flaubertienne à laquelle on ne peut pas répondre. Hein, puisque, comme on dit, il ne faut jamais conclure avec Flaubert, ni ailleurs. Voilà donc pour cet avenir imaginaire, et puis l'amour, donc déjà dans une très très mauvaise conception de la part de Frédéric, comme il disait ici, l'amour est la pâture et comme l'atmosphère du génie, les émotions extraordinaires produisent les œuvres sublimes. Ça, c'est pas du tout certain. Je crois que c'est une très mauvaise idée. Les œuvres sublimes ne viennent pas de personnes qui sont heureuses en amour, notoirement. Quand même plutôt le contraire. Pour produire des œuvres, il faut être malheureux. Alors peut-être qu'il espérait être malheureux pour produire des œuvres. Ça aussi, c'est une possibilité. Je vais être un grand écrivain, ou un grand musicien, ou un grand peintre, et pour cela, il faut que je sois malheureux. Allons-y. Et en plus, ça ne marche même pas, finalement. C'est dommage. Alors, tout en bas de la page, là, 34, il disait... Alors, il rêvait des symphonies. C'était la dernière ligne de la page. Il rêvait des symphonies. Non pas, il rêvait de symphonies. On pourrait penser qu'il rêvait d'écouter de la musique. Mais il rêvait des symphonies, c'est-à-dire il se voyait en train d'écrire des symphonies. Hein, comme s'il composait, comme ça, composait de la musique, comme on compose de la poésie ou comme on peint un tableau. Voilà. Pour finir sur ce chapitre, on peut ajouter que, au lieu de parler de Madame Arnoux, dont il est amoureux, mais il est un peu... Il hésite à en parler à Frédéric pour l'instant, ça viendra après bien sûr, mais du coup il arrive quand même à en parler un petit peu en plaçant le sujet de Monsieur Arnoux. On peut parler de Monsieur Arnoux. Alors ça, c'est un sujet très intéressant et un sujet, disons, à la Balzac, hein, dans le sens où on peut s'en servir pour progresser dans la carrière. Et lorsqu'on parle de M. Arnoux, ce n'est pas intéressant en tant que librairie, en tant que magasin, c'est intéressant pour la carrière. Et donc, lorsqu'il parle de M. Arnoux, où est-ce que j'étais ? J'ai perdu la page. Ah oui, voilà, c'était à la page 34 toujours, hein. Voilà. Et donc je lisais tout à l'heure l'avant-dernier paragraphe de la page 34, rapportant ses discours, ses manières, ses relations, et Deslauriers l'engagea fortement à cultiver cette connaissance. Voilà un projet pour l'avenir très proche. Et puis l'autre projet pour l'avenir très proche, c'est à la page 36. Il y a quand même une rencontre dans cette nuit sur les ponts, au milieu de la page 36. L'ombre de quelqu'un s'allongea. Ce n'est pas le domestique, c'est Monsieur Roch. Petit homme habillé d'une ample redingote brune, coiffé d'une casquette, bon, avec un nez pointu. Monsieur Roch, dit Frédéric, lui-même reprit la voix. Le Nogentais justifia sa présence en comptant qu'il revenait d'inspecter ses pièges à loups dans son jardin au bord de l'eau. « Et vous voilà de retour dans nos pays. »« Très bien. »« J'ai appris cela par ma fillette. »« La santé est toujours bonne, j'espère. »« Vous ne partez pas encore. » Et il s'en alla, rebuté sans doute par l'accueil de Frédéric. Madame Moreau, en effet, ne le fréquentait pas. Le père Roch vivait en concubinage avec sa bonne. Et on le considérait fort peu, bien qu'il fût le croupier d'élection, le régisseur de M. d'Ambreuse. « Le banquier qui demeure rue d'Anjou ?» reprit Deslauriers. « Sais-tu ce que tu devrais faire, mon brave ?» Bon, Isidore passe, le domestique étant parti. « Tu devrais prier ce vieux de t'introduire chez les d'Ambreuse. Rien n'est utile comme de fréquenter une maison riche. Puisque tu as un habit noir et des gants blancs, profites-en. Il faut que tu ailles dans ce monde-là. Tu m'y mèneras plus tard. Un homme à millions, penses-tu ? Pense donc. Arrange-toi pour lui plaire et à sa femme aussi. Deviens son amant. » Frédéric se récriait. « Mais je te dis là des choses classiques, il me semble. Rappelle-toi Rastignac dans la comédie humaine. Tu réussiras, j'en suis sûr. » Frédéric avait tant de confiance en Deslauriers qu'il se sentit ébranlé et, oubliant Madame Arnoux ou la comprenant dans la prédiction faite sur l'autre, il ne put s'empêcher de sourire. Et dernier conseil de son ami, passe tes examens, il faut un diplôme, etc., etc. Prenant des exemples, bon. Ensuite, il se quitte. Donc voilà, pour l'avenir, on peut séparer en quelque sorte deux types d'avenir. Il y a un avenir lointain, qui était exprimé au début du chapitre par les verbes au conditionnel. On voyagerait, on travaillerait ensemble, etc. Et puis un avenir plus proche, qui est pratiquement comment on fait pour réussir. Alors d'un côté, chez Arnoux, en effet, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'approfondir, de cultiver, et de l'autre côté, aller chez les d'Ambreuse. Grâce à le truchement, comme on dit, hein, en passant par M. Roch. Même si Mme Moreau ne l'aime pas beaucoup, Madame Moreau ne l'aime pas beaucoup pour une raison morale, parce que ce monsieur Roch vit en concubinage, c'est-à-dire sans être marié, avec sa bonne. Oh, hein, monstrueux. Voilà. Bah oui, Madame Moreau est comme ça, hein, on peut pas changer. Au contraire, Charles est plutôt en quelque sorte immoral. Immoral au sens où il faut profiter de la situation, donc à la façon, disons, pragmatique, comme on dit aujourd'hui, hein, le pragmatisme, c'est profiter de la situation. On connaît M. Roch qui connaît M. d'Ambreuse, donc il faut y aller, et ce pragmatisme immoral est un trait typique du caractère de Rastignac ou d'autres personnages de la comédie humaine. Donc ici, donné en exemple. Alors, il faut entrer chez les d'Ambreuse, donc ce monde-là, fréquenter les gens, être bien avec eux. On parle des hommes. Et du côté des femmes, être l'amant de Madame d'Ambreuse. Ça aussi, c'est très intéressant parce que dans le pouvoir, on progresse aussi beaucoup par les femmes. Bon, c'est connu partout, hein, je crois. On peut progresser par les hommes, on peut progresser par les femmes, et on peut jouer des deux côtés en cachant bien. Bien sûr, si on est l'amant de Madame d'Ambreuse, il ne faut pas que tout le monde le sache, évidemment. Voilà. Nous avons vu l'ensemble du chapitre, ce qui m'étonne, parce que d'habitude, on n'arrive pas à finir. Mais je crois que c'est parce que, justement, j'ai choisi de sauter un peu comme une puce d'un endroit à l'autre, de façon à synthétiser, à rassembler des éléments de la lecture. Donc, pardon pour les petits sauts de puce, mais on tient comme ça l'horaire. Et puis, alors, on arrive à l'aventure d'un mot. Donc ici, le mot « républicain ». La semaine dernière, je vous ai proposé des contextes un peu plus larges parce que c'était la première fois, vous n'aviez pas le texte. Et maintenant, avec ce contexte, cette concordance de républicains, républicaines, républiques, etc., vous pourrez tranquillement, à la maison, rechercher dans toutes les pages les différentes occurrences de ces mots. Ça vous permet en quelque sorte de traverser transversalement le livre. Et bien sûr, si vous avez l'internet, ce qui est peut-être la majorité, le cas pour presque tout le monde, vous avez la possibilité d'aller sur ce site de Intratexte pour vérifier, refaire, continuer à votre guise. Certains sont allés depuis la semaine dernière voir sur le site Intratexte. Non, pas encore. Bah, faites-le, hein, c'est très sympa, vous allez le trouver. Hein. Ça marche très très bien. Alors, républicain, c'est un mot que nous avons déjà vu au premier chapitre. En effet, à la page 21, on l'a dit la semaine dernière, hein, Arnoux, avec son costume bleu, blanc, rouge, il est républicain. Et il le dit lui-même. Ici, maintenant, dans ce... pas dans ce deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, on a le mot républicain au pluriel. Hein, donc, vous voyez, il y a plusieurs parties. Hein. Il y a républicain au singulier, républicaine au pluriel, c'est dans l'ordre alphabétique, républicain au pluriel, et dans républicain au pluriel, vous avez ici à gauche 1, 2, c'est-à-dire première partie, deuxième chapitre. Il tenait des discours républicains. Enfin, elle crut savoir, etc. Donc là, c'est le chapitre 2, dans la première partie, à la page 33. On l'a vu tout à l'heure, pendant la lecture. Ça se trouve en bas de la page 33, et c'était dans la mauvaise réception de Charles, hein, de la part de Madame Moreau. De cette façon, il y a une opposition ici très claire entre... Madame Moreau, catholique, et donc traditionnaliste, et donc certainement royaliste. Et d'un autre côté, Charles, qui a une attitude et des propos républicains, hein, et qui n'est pas de la même génération que Madame Moreau. Cette opposition, elle est bien sûr très importante, et elle structure en quelque sorte cette époque de la Restauration, que ce soit dans la première partie avec Louis XVIII, avec Charles X, ou maintenant dans les années 40. Ce qui se passe politiquement en France, c'est le développement bourgeois et industriel. C'est énorme, c'est massif. En apparence, dans les médias et dans beaucoup de couches de la population, ce qui se passe, c'est plutôt la lutte permanente entre l'ancien régime qui essaye de se réinstaller avec les privilèges de classe, la noblesse, etc. Et le nouveau régime avec cette première république, bientôt la deuxième. Donc ce sont des forces comme ça qui luttent l'une contre l'autre. Mais je dis que c'est en apparence dans les médias, parce qu'en réalité, c'est le monde bourgeois et industriel qui se développe massivement en profitant des deux côtés, à la fois du côté moderne de la République, des lois, du commerce international, de la diminution des taxes, des douanes et de toutes sortes de choses, et en profitant de l'autre côté des privilèges, des positions que des gens avaient acquises dans le passé pour développer les réseaux, les relations industrielles qui permettent ce développement. Alors bien sûr, Madame Moreau est tout à fait en dehors de cette réalité de l'évolution de la France. Elle est une pauvre petite dame qui ne travaille pas et qui est simplement dans sa pensée chrétienne de l'ancien monde. Bien sûr, on voit apparaître aussi des chrétiens, des catholiques républicains. Tout est possible, évidemment, mais ils ne sont pas la majorité. Donc, dès le deuxième chapitre, le républicain que nous avions vu dans le premier chapitre, sous l'apparence un peu ridicule de M. Arnoux, à cause de... c'était vestimentaire, disons, une apparence, c'est tout. Dans le deuxième chapitre, apparaît déjà comme une opposition entre deux parties de la société. Mais une opposition qui cache une réalité du monde. Cette opposition, elle va être manipulée, utilisée par toutes sortes de personnes, y compris par Deslauriers, par Frédéric ou par d'autres, entre 1840 et au moins 1848, l'époque de la Révolution, sur laquelle on reviendra évidemment. Ce qui fait que, lorsque vous voyez les contextes de République, vous voyez que ça commence à la deuxième partie, chapitre 2. C'est-à-dire que avant la deuxième partie, c'est-à-dire 200 pages de roman, le mot « république » n'est jamais utilisé par Flaubert. Il utilise l'adjectif « républicain »,« un républicain », mais le mot « république » lui-même n'était pas utilisé, surtout avec la majuscule, parce que, vous voyez, toutes ces citations de « république », c'est avec la majuscule, c'est-à-dire désignant le système de gouvernement. Donc, on s'interroge d'abord, deuxième partie, deuxième chapitre, pour amener quoi ? La République, comme si elle était possible. Bon, vous regarderez à la maison. Troisième partie, et ça constitue donc l'essentiel des occurrences du mot « République ». Vous voyez ici, ça fait un gros paquet comme ça, d'une vingtaine d'occurrences. C'est « République » dans la troisième partie. Donc, si on considère le roman comme un ensemble, comme ça, la répartition de république et de républicains est tout à fait disproportionnée. Il y a une grande partie dans la troisième, une grande quantité dans la troisième partie et assez peu dans les autres parties. Ça correspond là aussi à l'histoire telle qu'elle est racontée, puisque la première partie, la deuxième partie du roman ne sont pas encore dans cette révolution de 48. Donc, l'idée de république est une chose qui concerne des convictions individuelles, personnelles, mais pas une réalité de l'histoire de la France d'aujourd'hui pour eux. Aujourd'hui, c'est pour eux, en 48. Donc, cette répartition du mot de la famille de mots républicains est assez raisonnable, logique. Quelques-uns au début, surtout des adjectifs, et puis massivement quand c'est une réalité historique. On peut dire que le mot républicain ou la famille du mot républicain est assez raisonnable, cohérent et plutôt apparent dans la structure du roman. Contrairement à ce que nous avons vu la semaine dernière, le mot « héritage », avec un petit nombre d'occurrences, mais qui sont à des endroits stratégiques du roman et qui correspondent à une sorte de ligne de fond, hein, de onde, comme ça, au fond du texte. Ici, avec « républicain », on est plutôt sur la surface du texte. Bon, une forme d'interprétation, hein, de ma part. À propos du « républicain », donc la deuxième ligne, hein, numéro 2, « républicain » du chapitre 5, c'est-à-dire à la page 79. On peut le regarder un peu si vous voulez. Page 79, c'est au milieu de la page, un petit peu après le milieu de la page. Il s'agit du personnage nommé Sénécale, un personnage aussi très important du roman, on en reparlera. Sénécale disait vrai, mais il se trouvait agacé quotidiennement par les réclames de l'art industriel. Arnoux était, pour lui, le représentant d'un monde qu'il jugeait funeste à la démocratie. Républicain austère, il suspectait de corruption toutes les élégances, n'ayant d'ailleurs aucun besoin et étant d'une probité inflexible. Nous avions commencé par avoir un républicain, M. Arnoux, avec son apparence de républicain, et nous en voyons ici un deuxième. Et on voit, on peut comprendre, dans le livre c'est très clair, qu'il existe plusieurs catégories de républicains. On va dire, disons, des républicains, des républicains enthousiastes, des républicains un peu chic, dans un sens, comme on dit aujourd'hui, bon chic, bon genre, ou bourgeois bohème, c'est-à-dire qui montre ses idées de républicain comme un costume de société. Et d'un autre côté, Sénécale, un républicain austère, un républicain jusqu'au fond du corps et de l'esprit, et qui n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit de frivole ou de gai ou d'enthousiaste. Deux républicains très différents. Ça me rappelle d'ailleurs Charles Péguy, c'est pas le même siècle, mais Péguy comme républicain austère, attaché aux idées profondes, et puis les autres, enfin d'autres autour de lui, qui sont toujours prêts à se marier avec tel ou tel pour rester au gouvernement. Et bon, aujourd'hui c'est un petit peu la même chose aussi. Mais quand je vois Sénécale comme ça, austère, bien sûr Flaubert ne le connaît pas, mais moi je pense un petit peu à Péguy. Enfin, on dit que Péguy n'était pas austère. Mais je pense à cette personne quand même, comme ça. Et alors, républicain austère, il suspectait de corruption toutes les élégances. Alors bon, j'ai parlé de Péguy, on pourrait penser à Robespierre aussi, hein, parce que comme austère, qui veut s'attacher vraiment au dogme et à la pensée, c'était plutôt Robespierre. Ça veut dire aussi que de Robespierre à Péguy, il y a toute une famille de républicains stricts, on va dire. On pourrait dire aujourd'hui presque intégristes, hein, on l'utilise pour des mouvements religieux, mais dans ce sens, le républicanisme de la Révolution française de 1830 et de 1848 était pour beaucoup une sorte de religion aussi. Donc, un intégrisme tout à fait possible. Voilà donc Sénécale se dégageant de ces occurrences. La troisième occurrence, le républicain les gouvernait durement. J'ai rajouté un petit peu d'ailleurs, homme de théorie, il ne considérait que les masses et se montrait impitoyable pour les individus. C'est à la page 248 et c'est encore Sénécale. Et là, donc, je n'ai pas le temps de vous le lire, mais le paragraphe est encore plus dur, encore plus clair sur l'attitude, le discours, la pensée de Sénécale. Alors bon, vous savez que Sénécale ne finira pas très bien, lui non plus, dans le roman de Flaubert, mais au moins il avait cette rigueur dans la pensée. Parmi les occurrences de République, la numéro 4 correspond en fait à la proclamation de la République, donc c'est à la page 363. Voilà. Donc c'est dans les mouvements, bien entendu, de la Révolution, hein, des journées de 48, et au milieu de la page 363, bah, je suis solide, qu'est-ce que ça fait ? La République est proclamée, on sera heureux maintenant. Alors, je voulais finir aujourd'hui sur cette mention un peu naïve, ridicule, l'association de ces deux phrases. La République est proclamée, on sera heureux maintenant. C'est merveilleux, hein, si c'était possible. On serait heureux aussi aujourd'hui, parce que, voilà, bon, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a toujours dans le peuple et dans ces mouvements populaires qui provoquent des révolutions, hein, parfois, et qui amènent des républiques, il y a toujours cette pensée naïve que ça y est, on a proclamé la République, maintenant on va être heureux. Malheureusement, c'est presque jamais le cas, même si on travaille bien, même si on essaye bien de faire cette République, il y a beaucoup de problèmes. Alors, personnellement, je reste démocrate et attaché à la République, donc je souhaite bon vent à la République et aux républiques, mais je ne peux pas dire « on va être heureux ». Cette naïveté est tout à fait impossible.